Beaucoup de choses sur la table aux amateurs de sport aujourd'hui. Tantôt, on va parler avec Louis Bertrand. Ça a été une journée très difficile pour Hugo Hull et l'équipe Astana au Tour de France aujourd'hui. Il y a Alexandre Tagliani qui sera là. Et Alexandre n'est pas d'accord avec la stratégie de McLaren. Il n'a pas aimé ça du tout, ce qu'il a vu au Grand Prix d'Angleterre hier. Jérémy Filosa, ben il faut bien parler un peu de hockey. On est au Québec après tout. Le gardien réserviste du Canadien, Keith Kincaid, a rencontré les médias aujourd'hui. C'est toujours un grand événement quand un gardien substitut du Canadien rencontre les médias pour la première fois. Alors, on ne passera pas par-dessus cette occasion-là. On a Vincent Destouches qui va nous jaser de soccer et de l'impact qui a subi une défaite très difficile. Bonne nouvelle, les gradins étaient remplis, enfin, pour la première fois au Stade Saputo, mais ça a été plus difficile sur les terrains. Puis Bruno Eppel, je vous l'ai promis tantôt, parce qu'avec Bruno, on a parlé de l'affaire de Kavis Reid en première moitié d'émission, première demi-heure d'émission, mais on n'a pas parlé de football. Puis c'est ça qui est un peu triste, parce que les Alouettes, ça va bien, enfin. Et donc, on va pouvoir en parler avec lui. Et un qui suit ça, puis qui sait que ça va bien pour les Alouettes, puis qui comprend aussi combien ça peut être difficile pour l'organisation à l'heure actuelle. C'est un ancien président des Alouettes, Ray Lalonde. Ray qui collabore bien sûr au 98.5 avec nous. Ray, salut.
Salut Philippe.
Ray, t'as vu ça hier, cette conférence de presse-là, cette nouvelle. Quelle est ta première analyse quand tu vois ça?
Moi, je pense que c'est difficile pour les Alouettes toujours d'avoir à faire face, même dans les bons moments, Philippe, à des mini-scandales, des mini-controverses, des mini-dossiers qui refont surface. On dirait que là, qu'ils courent un peu après le trouble constamment. Il y a un bon moment de réjouissance parce que Vernon Adams Jr. joue bien. Les Alouettes viennent de gagner deux matchs. Ils marquent des points. C'est un peu excitant. Et puis là, ils sont revenus dans la course. Deux victoires, deux défaites. Et là, on a un autre petit nuage qui vient se planter devant nous un dimanche matin à Montréal. Alors, c'est dommage pour ça.
Un gros nuage. Ouais, quand absolument. Ton directeur général est congédié, et là, je vais employer l'expression légale un peu pour cause, là, donc pour un manquement administratif manifestement très grave, là, c'est pas une bonne nouvelle pour une organisation. C'est qu'il y a des garde-fous là, qui n'ont pas été respectés.
Ouais. Mais tu sais, c'est un peu, de façon générale, là, je veux pas pointer du doigt un groupe ou un autre, mais la Ligue canadienne, on se dirait, ont toujours un peu de difficulté à bien gérer l'application. Alors, expliquons un peu le cap salarial là, dans le football de la CFL. C'est 5,7 millions. Ça suit la récente convention collective qui a été signée pour 46 joueurs. C'est pas beaucoup d'argent, Philippe. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que on cherche toujours des moyens d'essayer d'offrir le maximum d'argent possible à des joueurs, bien entendu. Mais il y a un cap salarial parce que c'est une ligue plus modeste, les revenus sont modestes, il y a moins d'argent à diviser. On n'est pas dans l'univers de la Ligue nationale de hockey, encore moins de ceux des ligues américaines.
5,7 millions, là, c'est pour un même club pas complet. Le salaire d'un joueur vedette dans la Ligue nationale de hockey.
Exactement. Ça donne une idée, là. C'est un joueur ordinaire qui a un petit peu d'expérience puis il marque des buts ici et là. 5,7. On doit faire 46 joueurs avec ça. Alors, c'est toujours une stratégie d'essayer de dire comment qu'on le squeeze, puis on étire cet argent-là, puis on maximise la répartition. Surtout quand t'as des joueurs vedettes qui en gagnent plus.
Mais est-ce qu'on va aller jusqu'à aller contre les règlements?
Ben là, ça, je veux pas me prononcer. Je veux pas qu'on spécule. On a un gars qui peut-être fait partie d'un problème, mais c'est de la spéculation. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je pense pas que là est l'objectif aujourd'hui. Je pense qu'il faut expliquer qu'il y a un cap salarial parce que on doit restreindre les dépenses. On n'est pas dans le baseball majeur où les revenus sont gigantesques et on peut dépenser tant qu'on veut. Et les plus riches dépensent pour gagner. Dans la Ligue canadienne, il y a 9 équipes. Les 9 ne sont pas tous dans la même santé financière. Ça a été établi. Les Alouettes font partie des équipes en difficulté financière vis-à-vis, par exemple, Calgary, Winnipeg, Saskatchewan. Alors, c'est déjà une ligue qui n'a pas beaucoup d'équilibre parce qu'on n'arrive pas à faire nos frais au niveau des 9 équipes. Alors, quel que ce soit, on doit quand même être respectueux des règles. Et si quelqu'un enfreint les règles, ben là, à mon avis, c'est la Ligue aussi qui doit agir. Ouais. J'ai pas entendu rien de la Ligue, moi, à ce sujet-là. Tu sais, à part du fait qu'ils ont répété un peu le communiqué, j'ai trouvé hier que la conférence de presse peut-être manquait un petit peu de plus de réel, de concret.
De substance.
Ouais,
un
de
peu,
substance.
Parce que ce qu'ils ont dit, ça ouvre la place à toutes sortes de rumeurs.
À spéculation.
C'est ça, exactement. Ça, c'est pas bon.
Pas bon du tout. Parce que là, tout le monde se pose les mêmes questions, personne n'a les réponses, on se fait nos propres réponses.
Voilà.
Ce qui est dangereux pour un club comme les Alouettes.
Tout à fait. Alors là, à partir de là, comment on gère ça? Comment on essaie là, de remettre le train dans la bonne direction?
C'est sûr que dans une équipe professionnelle, Philippe, le président, c'est à partir du moment qu'il est désigné pour opérer l'équipe, avec un succès financier puis un succès performance, le président est responsable. Parce qu'il ne peut pas rien se passer en dessous d'un président. et ensuite se dire, ben là, on vient de découvrir quelque chose, ou ensuite, tu sais, j'étais pas au courant, ou tout ça. À mon avis, là, il y a une responsabilité, et le directeur gérant est pas loin derrière. Alors, outre les performances décevantes des Alouettes côté football, où on accusait Kavis Reid de toutes sortes de difficultés à bien faire son travail, là, on a peut-être un autre dossier. Mais à la fin, dans une organisation, le président a des piliers. Les piliers qui sont des vice-présidents ou des exécutifs, il y en a une poignée. Eux sont au courant de tout ce qui se passe dans leurs divisions respectives à l'intérieur d'un club. Le marketing, les finances, les opérations d'un stade et ainsi de suite. Le côté sport, c'est-à-dire football ou hockey et ainsi de suite. Ben là, le président, son travail consiste à être très près de tous ces dossiers-là, mais de faire confiance. Une confiance aveugle en ces gens qui prennent ces décisions-là, qui sont responsables. Et l'intégrité, la droiture, la justesse, c'est tout important là, là-dedans. Parce que on demande aux partisans de nous faire confiance. Ben, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on doit agir de bonne foi dans tout. Et on doit dénoncer des situations. Et on doit ne jamais être tenté par le pouvoir et l'influence qui vient avec des positions comme ça. Alors, encore une fois, moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On est tous un peu dans la même situation. Je ne veux pas faire de rumeurs. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une obligation morale comme équipe de sport qui vend un produit et une confiance et de l'espoir en ses partisans de livrer de l'intégrité, de la justesse, de la droiture et une honnêteté avec ses partisans.
Voilà. Et tout ce qu'on sait, c'est que Patrick Boivin nous a dit, même si l'affiche des Alouettes était de 4 victoires et aucun revers, ma décision aurait été la même aujourd'hui. Mais le paradoxe, Rick, qui là-dedans est assez fascinant, c'est que là, il y avait un petit rebond pour les Alouettes. Ouais. 2 victoires, puis on retrouve un peu d'enthousiasme. Le match d'ouverture locale, il y a quoi maintenant, 10 jours, tu sais, ça a été un beau moment, ouais. 18 000 personnes, puis il y avait de l'ambiance, puis tout le monde était content, les gens passaient une soirée magnifique. Alors là, tu sens un petit rebond, mais là, le directeur général s'en va. Mais c'est vu par au-delà de toute cette affaire dont on ne connaît pas tous les détails, sur le plan purement sportif, à peu près tout le monde applaudit. Ouais. Parce que c'était pas un gars qui était tellement apprécié. Sa fiche était certainement pas convaincante. Ses décisions étaient éminemment contestables. Il y a des erreurs d'évaluation. Il y en a eu une autre encore, ça n'a pas cessé. Alors, c'est quand même paradoxal de voir que ce qui est c'est une mauvaise nouvelle pour une organisation de se retrouver dans une situation comme celle-là.
Tout à fait.
La plupart des gens vont dire, ben, coudonc, dans le fond, il aurait probablement pas dû amorcer cette saison-ci.
Ouais. Ben, tu sais, il y en a eu depuis longtemps, là. Pense juste à l'annonce du départ de Mike Sherman dans le tout début du camp d'entraînement. Un peu bizarre, encore une fois.
Oui.
Il y a des situations là-dedans qui ont fait en sorte que les Alouettes ont, encore une fois, eu de la difficulté à stabiliser. Pourtant, on parle de continuité, puis on parle d'essayer d'avoir de l'espoir pour l'avenir depuis quelques années déjà. Mais là, l'équipe est à vendre, puis l'équipe est toujours un peu impliquée dans toutes sortes de petites controverses, et on n'arrive pas à trouver un acheteur. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'instabilité autour d'une équipe qui essaie juste de performer puis d'offrir un spectacle et un produit sur le terrain. Et au moment où on a quelque chose de positif, qui n'a pas été le cas souvent depuis longtemps, tout de suite, on a encore une petite bombe à gérer à l'intérieur de l'organisation. Mais c'est vrai ce que tu dis. Les partisans, eux, honnêtement, consommateurs sont contents de voir partir Kavis Reid parce qu'il était associé à des mauvais résultats.
Exactement.
Puis, alors, là, on parle d'autre chose.
Un peu la même chose avec Mike Sherman. Malgré son curriculum vitae absolument extraordinaire, malheureusement, c'était pas l'homme de la situation. Alors là, il y a quand même un peu d'espoir. Alors, on verra comment les Alouettes vont gérer ça au cours des prochains jours. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de ce dossier-là. J'ai aussi hâte demain d'entendre, il y a certainement des joueurs qui vont s'exprimer. J'imagine qu'on va leur dire aux joueurs d'en dire le moins possible.
Graduellement, ça va sortir. Voilà. Puis après, à un moment donné, la Ligue canadienne va devoir se prononcer. Oublie pas, il y a un processus de vente. La Ligue est propriétaire de l'équipe. Directement, indirectement, tutelle ou non, on l'appelle comme on veut. Mais ils sont responsables aussi là, de tout ça, ces situations-là, parce qu'ils ont les mains dans l'équipe à chaque jour. Alors, c'est encore bizarre, ça aussi, cette situation-là, qu'on soit en pleine saison puis qu'on n'ait pas encore réglé le dossier du club.
OK. J'ai hâte de lire les mémoires de Patrick Boivin parce que la dernière année qu'il a vécue, tu sais, on peut critiquer est-ce qu'il fait bien les choses, est-ce qu'il n'a pas bien fait, mais quand même, là.
Ah, il y en a vu passer tout ça.
Le jeu de cartes qu'on lui a donné, la main qu'on lui a donnée, c'est pas une main facile.
Non.
Hey, je sais que t'aimes le tennis. Veux-tu qu'on écoute un petit quelque chose ensemble?
Avec plaisir.
That's it. On a massive miss hit. Wimbledon, number 5. for the Serbian superstar. What a treat this has been.
Alors, c'est la fin du match d'hier, un match absolument extraordinaire entre Novak Djokovic et Roger Federer. Tu sais, Djokovic, personne prenait pour lui hier à Wimbledon, puis j'ai trouvé ça tellement beau quand il a dit, tu sais, je suis allé chercher à l'intérieur de moi cette espèce de flamme qui l'a animé, mais c'est vraiment un match qui fait époque.
Ouais. Ces trois joueurs-là, là, honnêtement, là, quand moi je suis le tennis depuis les années de Borg, McEnroe, Jimmy Connors et ainsi de suite, de façon aussi évidente qu'aujourd'hui, des marathons de matchs. À Wimbledon, c'était toujours McEnroe et Borg.
Ouais.
Borg n'arrivait jamais à gagner le US Open, par exemple. C'était toujours l'affaire des Américains. Et Pete Sampras, par la suite, jamais était capable de gagner à Roland-Garros, lui non plus. Mais il gagnait US Open et Wimbledon cette fois. Mais quand il atteint 14 victoires, Pete Sampras, moi, je pensais qu'honnêtement, peut-être un gars y arriverait. Mais là, les trois suivants qui ont passé dominent le tennis outrageusement. Mais Philippe, ce que j'aime là-dedans, c'est que le comportement est exemplaire. Ce sont des joueurs qui sont toujours au meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Ils sont positifs. Ce sont des ambassadeurs hors pair pour le tennis, hommes et femmes. Parce qu'on est chanceux dans notre vie de voir jouer trois gars qui se poussent aux limites physiques. Hey, je me rappelle le match à 5h50, Nadal-Djokovic en Australie. Mais je me rappelle aussi du match en 2008 qu'on prétend encore étant le meilleur match de l'histoire, Nadal et Federer. Et hier, on en a vu un autre.
Qui passe à l'histoire.
Qui passe à l'histoire.
Mais tu sais, je regarde, là, tu parles de ça, comment ils ont marqué l'histoire de tennis. Moi, ce qui me fascine du tennis, ce qui me fascine le plus, là, c'est qu'à l'âge où ils sont rendus, qu'ils soient toujours aussi dominants. J'ai le tableau devant moi. Là, depuis 2017, là, si on commence à l'Omnium d'Australie, premier majeur de la saison 2017, Federer. Après ça, je les mets Nadal, Federer, Nadal, Federer, Nadal, Djokovic, Djokovic, Djokovic. Nadal, Djokovic, il n'y en a aucun autre. La nouvelle génération, là, ben, il y en a eu deux nouvelles générations. Il y a celle des Raonic, puis des Nishikori, puis des Dimitrov, qui n'a pas réussi.
C'est ça.
Puis là, on attend que celle des Zverev, puis des Shapovalov, puis éventuellement
Félix,
mais il a seulement 18 ans. On peut peut-être attendre un peu avant de le mettre, même si les autres ne sont pas très vieux, Tsitsipas non plus. Mais on dirait qu'ils ne sont pas capables de vaincre cette... comme une frontière.
C'est la fortitude mentale, d'abord. Les trois gars, eux, ils sont capables d'aller aux limites. Honnêtement, Federer joue pas un match comme ça, à part du fait qu'il joue contre Nadal ou Djokovic. Ouais. Il fait toujours mieux et plus. C'était exceptionnel à 37 ans de le voir. Il va avoir 38 ans. Ça achève pour Federer. Moi, j'ai pas l'impression que pour lui, il y a un 21e titre qui l'attend. Mais ceci,
non,
j'enlève rien de ce qu'il a fait. Non, parce que les deux autres, 5 ans d'avance, là, ils sont encore physiquement là. C'est dur, la saison tennis. Ça commence en janvier avec l'Australie. Ça se termine en novembre à Londres. Et c'est long. Et c'est de plus en plus long. Et là, Federer a joué une saison complète pour une des rares fois.
Ben, c'est ça, il va peut-être revenir à sauter
à son horaire un peu
là.
Plus, ce qu'on appelle en anglais le load management.
Voilà.
Tu vois?
Ben, faut qu'il le fasse.
Encore une fois, j'enlève rien à Federer parce que pour moi, c'est un joueur élégant. Nadal, c'est un joueur exceptionnel. Djokovic, un joueur très talentueux. Les trois joueurs sont même tellement différents l'un vers l'autre. Mais on verra jamais une époque comme ça. Il faut l'apprécier parce que ça fait partie de notre vie. Qui nous aurait gardé devant un téléviseur pendant 4 heures plus hier? Honnêtement, c'était ces deux-là, ou Nadal.
Ou Nadal.
Ouais. C'est, honnêtement, il n'y a rien que ça. Puis, on ne donne pas assez de crédit à l'aspect talent, athlétique et physique de joueurs de tennis qui jouent aussi bien un 13-2 ou 5e set qu'en début du match, mais dans aucun autre sport, Philippe. Honnêtement, je suis un consommateur de tous ces sports-là. Je peux pas imaginer un athlète qui serait aussi bon après 5 heures de jeu.
Non, exactement. Puis les gens là qui nous écoutent, si vous voulez comprendre un peu comment un joueur se sent, je vais vous conseiller la lecture d'un livre. Ce sont les Mémoires d'André Agassi. Ça s'appelle Open en français. Un livre absolument extraordinaire. Où d'ailleurs le livre commence, il raconte un grand match qu'il vient de jouer puis comment il se sent après, comment il est épuisé puis qu'il a mal partout. Et ça nous amène vraiment dans les coulisses du tennis. Mais Federer, là, moi, je suis pas d'accord avec.
Ben,
je pense qu'il va en gagner un autre.
Ben, c'est parce que le problème, c'est que les deux autres ont autant d'appétit et il arrive de temps en temps un Dominic Thiem, un jeune qui peut-être est là près de la porte. Alors, c'est dur pour Djokovic, Nadal et Federer, mais ça l'est un petit peu plus pour Federer parce que, comme Nadal le disait vendredi, il y a de moins en moins d'opportunités pour lui qui se présentent. Là. Wimbledon, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné. Il est proche, il joue bien. Le gars a fait 5 finales de suite à un moment donné. Personne ne peut dire que Nadal n'est pas bon sur gazon.
Non.
C'est juste que Philippe, les trois jouent dans la même époque.
Exactement.
Imagine si un avait joué sans les deux autres. Il y aurait 30 titres du Grand Chelem.
Sûrement. Hey, Ray Lalonde, c'est toujours le fun de te parler. Merci beaucoup.
Merci, Philippe.
Au retour, on est avec Vincent Destouches. Bonne nouvelle pour l'Impact. Le stade était rempli en fin de semaine, le stade Saputo. Mauvaise nouvelle pour l'Impact. Ils ont perdu contre le Toronto FC.